Masechet Nida, Daf Zain, et nous commençons la page précédente. Cinq lignes avant la fin, Tnan Atam, Noladla Safek Tuma. Donc nous avons vu hier, dans le Daf Vav, plusieurs halakhot concernant ce temps des 24 heures qui précède le moment où la femme a vu un écoulement de sang. Donc nous avons vu qu'il y a une impureté depuis les dernières 24 heures, tout ce que la femme aura touché sera impur. Et là, la Gemara s'était posé la question, est-ce que c'est seulement Kodesh, des sacrifices, des aliments de sacrifice, ou même des aliments de Teruma? Et nous avions vu deux versions. Une première version d'après Ravuna, que c'est seulement lorsque la femme aura touché des aliments Kodesh, c'est-à-dire des sacrifices, qui ont un degré de Kdusha de sainteté plus élevé que de la Teruma. Et donc c'est pour cela que bien que les Chachamim ont fait cette Xéra, on dit la femme, bien qu'elle n'a vu du sang qu'aujourd'hui, donc elle ne devrait être Tmea impure qu'à partir de maintenant, on va malgré tout remonter 24 heures en arrière, tout ce qu'elle aura touché dans les 24 heures, c'est une Khumra des Rabbanan, les Chachamim ont été plus stricts. C'est un knas aussi, comme l'avons vu, c'était une amende, puisqu'elle n'avait pas fait les vérifications que les Khamim ont exigées à toute femme. Et donc, c'est pour cela que les Khamim ont dit qu'elle est impure depuis 24 heures. Si elle a touché donc, des aliments de Kodesh, où la sainteté de ces aliments est très élevée, là nous avons vu que c'est sûr que les aliments sont impurs, on ne pourra plus les manger. Lorsqu'elle a touché un aliment de Teruma, donc Teruma, c'est tout prélèvement d'une récolte qui a poussé en Eretz Israël, à ce moment-là, nous avons vu que, d'après Ravuna, une première version, les aliments ne sont pas impurs. D'après la seconde version, qui est d'ailleurs la halakha, comme le Rambam va trancher aussi, c'est aussi bien pour la teruma que pour le Kodesh que pour la teruma. Donc même si la femme a touché un aliment de teruma, elle va le rendre impur dans les 24 heures. Là, nous allons voir un autre point. N'oublions pas aussi que Rav Shmuel Bar Avitzrak avait rajouté un petit point, avait dit qu'il y avait Khulim Shenasual Tarat Kodesh et Khulim Shenasual Tarat Teruma. C'est-à-dire, il y avait parfois des aliments profanes, mais qui avaient été donc gardés avec la même sainteté que l'on gardait les aliments de Kodesh. Comme la Gemara l'explique dans Maseret Chagiga, il y a différents degrés de Tahara et de Touma d'impureté. Donc les aliments de Kodesh doivent être gardés d'une certaine manière, et les aliments de Teruma vont être aussi gardés. Donc il n'y ait pas d'impureté, mais pas avec autant de khumrot, de détails que pour les aliments de Kodesh, les aliments des sacrifices. Donc l'Agmara avait dit malgré tout, lorsque un homme, comme c'était l'habitude de l'époque, que certaines personnes mangeaient des aliments profanes, donc c'est-à-dire qui n'ont aucune ktusha, mais avec, comme si cet aliment était Kodesh, c'est ce qu'on va appeler khulim shenasu al tarat Kodesh, c'est-à-dire des aliments profanes qui ont été faits avec la même garde que les aliments de Kodesh. Ça, comme nous l'avons vu de Rav Shmuel Bar Yitzhak, si la femme Nida a touché un tel aliment dans les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu ce sang, il est aussi impur. Mais Khulin Shinaso Al Tarat Teruma, c'est-à-dire des aliments profanes qui ont eu le degré de Teruma, mais non pas de Kodesh, ça, dans les 24 heures, ils ne sont pas rendus impurs par cette femme. Donc là, la Gemara va nous apprendre un autre point. Un point important, c'est qu'il y a ce qu'on va appeler Khulin Atvulim Lechala. C'est-à-dire, lorsque on va pétrir une pâte, donc on va mettre de l'eau avec de la farine, au moment où l'eau et la farine sont en contact, on pétrit la pâte, il y a l'obligation de faire la Afrashat Khala, le prélèvement de Khala, dans le cas où, bien sûr, la pâte a la quantité suffisante. Lorsque cette pâte est terminée, avant que j'ai pris la challah, il y a une challah qui doit être prise, mais qui n'a pas été encore prise. Donc on va donner un niveau donc de kudusha particulier. Pourquoi? Puisqu'on va dire cette pâte a une challah que je dois prendre. La challah aussi, si elle est impure, elle a été touchée par un homme impur, elle ne pourra pas être mangée. Et nous avons aussi l'obligation de faire attention de ne pas rendre impure de la challah. Donc normalement, lorsqu'une pâte a été pétrie, je vais faire le prélèvement de challah. Il faut faire attention de ne pas rendre impur ce morceau de pâte qui est la challah. Là, nous allons voir dans la Gemara que plus encore, lorsqu'il y a une pâte qui est pure, cette pâte-là, n'a pas eu encore, n'a pas subi le prélèvement de challah, mais je dois faire le prélèvement de challah, j'ai aussi l'interdiction de rendre impure la pâte, puisque de cette pâte, je devrais prendre une challah. C'est ce qu'on va appeler choulin, chez Nasu Altar, chez Atvulim les challah, c'est-à-dire des choulin, une pâte profane qui n'a aucune kdusha, mais qui attend le prélèvement de challah. Donc nous avons une mishnat nanata.
La challah, c'est le kohen qui la
mange. Ça indigne aussi de terouma. Comme de la terouma. Donc ici, la Gemara nous dit, Noladla safektuma. Une femme va pétrir du pain, va pétrir de la pâte, et elle a un doute. Elle ne sait pas si elle est impure ou si elle est pure. Elle a un doute, et elle va donc avoir devant elle de la farine et de l'eau. Elle veut faire du pain. Eh bien, on va dire, Hachlo Gilgela, si ce doute est venu avant qu'elle ait donc mélanger la farine et l'eau, tasse betouma, elle n'a pas besoin de garder cette pâte en pureté, c'est-à-dire elle pourra le toucher, même s'il y a un doute, peut-être qu'elle est impure, et même si ensuite elle va toucher un aliment, elle va toucher un chéret, elle pourra aussi toucher cette challah a priori, pour cette pâte, pourquoi? Puisque de toutes les manières, la femme est impure, elle a un doute, au moins est-ce qu'elle est impure ou pas, et la challah, dire la pâte, dès qu'elle a été faite en tant que, dès que la farine et l'eau ont été mélangées, il y a déjà le doute d'impureté. Donc là, nous n'avons pas l'obligation de faire attention que cette pâte reste pure. La pâte, le chiyuv de challah ne commence qu'au moment où on va mettre de la farine et de l'eau. Donc si le doute d'impureté est venu juste avant, on pourra mettre l'eau et la farine sans faire attention est-ce que c'est impur ou pas. Pourquoi? Puisque le début même de cette pâte va commencer avec l'impureté. Mais dans le cas, Michel Gilgela, prenons le cas où la femme a déjà fait la pâte. Donc elle a déjà mis la farine avec l'eau. Donc elle a une pâte, et de cette pâte, j'ai l'obligation de prendre le prélèvement de challah. Donc je n'ai plus le droit de rendre impure cette pâte. Si cette femme a un doute, est-ce qu'elle est impure ou pas, elle n'a plus le droit de toucher la pâte. Pourquoi? Puisque là, nous avons déjà une pâte qui doit recevoir ce prélèvement de challah. Donc on va l'appeler déjà choulin atvulin et challah, des aliments profanes qui attendent la frachat challah. Donc dans ce cas-là, ta'ase betahara, elle devra garder la pâte en état de pureté. Donc si elle a un doute, elle ne pourra pas la toucher, elle demandera à quelqu'un d'autre. Hachlo gilgela ta'ase betouma, la Gemara avait expliqué avant même qu'il y ait eu la farine et l'eau, donc elle pourra rendre impur le tout. Pourquoi choulininou? Puisque avant qu'il y ait eu farine et eau, c'est choulin, profane, il n'y a pas encore l'obligation de challah. Ou moutar les grom touma les choulim shibetzrel, on n'a pas l'interdiction, c'est permis de rendre impur un aliment profane qui n'a aucune kdusha, même en Eretz Israël. Donc la farine va être impure par le toucher de cette femme, de même l'eau, et il n'y a aucun problème. Mais Miché Gilgela, si elle a déjà fait la pâte, donc là j'ai une pâte qui doit recevoir le prélèvement de Trouma, ta sebetahara, il faudra la garder en pureté. Pourquoi? Choulin atvulim de challah ki challah damu. Des choulin qui attendent le prélèvement de la challah, c'est comme si c'était déjà de la challah, la afrashat challah, et à ce moment-là, sur les grands Trouma, les challah, j'ai l'interdiction de causer une impureté à cette challah. Donc là, Gemara continue, Tana, et nous commençons d'Avzaïn, vechalata. Donc dans le cas où elle a, comme c'est marqué dans le cas où la pâte était déjà prête et qu'elle a eu le doute de Touma, elle doit faire attention à ne pas rendre impure cette pâte, mais la challah qui va être prise de cette pâte, Louya, va être suspendue. Pourquoi? L'ochlin ve lo sorfin. Elle ne pourra pas le manger et elle ne pourra pas le brûler, puisqu'elle a quand même eu un doute, peut-être qu'elle est impure. Donc elle n'a pas le droit de rendre impure la pâte, mais elle ne pourra pas non plus la manger. Et de quel safek il s'agit, nous dit la Braïta. Beze safek ambo. Il y a plusieurs safek de Touma qui peut venir. Donc là, la Gemara va proposer deux safekot. Donc là, nous avons dit que Nola de la safek, ça peut être n'importe quel safek. Maintenant, la Gemara va préciser, ce n'est pas tous les safekot. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a par exemple, nous dit la Gemara, ce qu'on appelle Ochachot Shaninu. C'est-à-dire, il y a deux chemins. Il y a dans un des deux chemins un mort qui a été enterré, il y a une impureté. Un homme est passé par un des deux chemins, ou cette femme est passée par un des deux chemins, elle ne sait pas dans lequel des deux chemins elle est passée, on va la considérer comme impure. Et si elle va toucher même un aliment profane, dans le cas des gens qui faisaient attention de même leurs aliments roulines qui n'ont aucune kdusha de les manger avec sainteté, elle ne pourra pas le manger puisque elle l'a rendu impur. Ça c'est ce qu'on va appeler ochachot, c'est-à-dire il y a un des deux shvilim, il y a un des deux chemins où il y a une impureté, donc elle a un doute, ce doute-là, la Gemara nous dit, c'est sûr que dans ce cas-là, elle rendra impure la chala. Il n'y a même pas de doute là-dessus. Le chidouche que nous allons voir ici, c'est un doute, un safek qui est inférieur à ce premier doute, c'est le cas de Nishan. C'est quoi Nishan? Nous allons voir qu'il y a une impureté de Zar, nous n'allons pas entrer dans les détails de Zav, puisque l'Agmara l'expliquera par la suite. Donc un homme qui est dans l'impureté de Zav, lorsque cet homme va s'appuyer sur un autre homme, il le rendra impur. C'est ce qu'on va appeler Nishan. Donc un homme Zav impur qui va déplacer un autre homme le rend impur, mais aussi Nishan lorsqu'il va s'appuyer sur lui. Donc même s'il y a un doute, peut-être qu'il s'est appuyé ou pas. Et donc là c'est une Touma qui est bien plus légère. Malgré tout, c'est ce que la Mishnah vient nous dire ici, Nola de la Safek, même dans un tel Safek, par exemple cette femme a un doute, est-ce qu'elle a été Nishan, elle s'est appuyée sur un Zav ou pas, dans ce cas-là, la Chala devra être Betahara, elle ne devra pas être impurifiée, bien qu'il y ait ce doute de Nishan. Donc la Gemara dit, Beze Safek Amrou, de quel doute il s'agit? Be Safek Chala, la Gemara dit, lorsqu'il y a un Safek, qui ne concerne que la chala, c'est-à-dire maï safek chala. Abaye et Rava d'Amret Arvayou, aussi bien Abaye que Rava, vont tous les deux expliquer. Shelot oma beochachot shaninu. On ne parle pas beochachot, c'est-à-dire on ne parle pas kemoshne shvilim, de deux chemins. Là, on est presque sûr que cette femme est rentrée dans, est passée dans un des deux chemins, donc peut-être qu'elle s'est rendue impure. De'atam chulim gredan amemetamu. Parce que là-bas, même s'il y a Khulim Greda, même si elle a touché un aliment pur, un aliment simple qui est Khulim, profane, qui n'a aucune Kudusha, elle va le rendre impur. Donc de quel safek qu'il s'agit, puisque dans ce cas-là c'est simple, c'est évident, il s'agit Benishan, c'est-à-dire du cas où le Zav va s'appuyer sur cet homme ou le contraire. Ditnan, Zav Vetaor, un homme qui est impur de l'impureté de Zav, Vetaor, un homme pur. Shayu Porki Minachamor, ils étaient en train de défaire les paquets que portait un âne, de décharger un âne, auto-anime, ou bien il chargeait cet âne-là. Bisman shmasan kaved, lorsque le poids est lourd, tamé, l'homme pur est impur. Pourquoi? Puisque peut-être qu'il a été, puisque l'objet est lourd, peut-être qu'à un moment, le zav s'est appuyé sur lui. Mais masan kal, dans le cas où le massa, c'est-à-dire le poids, est léger, donc dans ce cas-là, Taor, il va être considéré comme pur. Pourquoi est-il pur? Puisque certainement que le Zav ne s'est pas appuyé sur lui. Vekulam, donc bien sûr il ne s'est pas appuyé directement, mais il s'est appuyé à travers, par l'intermédiaire de ce poids qui était lourd. Vekulam, et dans tous les cas, nous dit la Mishnah ici, aussi bien dans le premier, ça fait que la Rashi dit, même si le Massa est kaved et lourd, même si le poids est lourd, que nous allons dire qu'il est impur, Théorim les bnei Knesset, il n'y a pas d'impureté pour les bnei Knesset. Qui sont les bnei Knesset? Ce sont ces hommes, donc ni des Kohanim, ni des gens qui mangeaient des korbanot, mais des Haverim, des gens qui avaient pris sur eux de faire attention à tout ce qui est pureté et impureté, et qui mangeaient même leurs aliments profanes en Tahara, en pureté. Donc eux sont Théorim les bnei Knesset, c'est-à-dire que cette Touma de Nishan ne concerne pas les Khulin, qui sont Anasim, les Khulim, comme la Lachon de la Gemara, les Ochlim Khulim Betahara, de ceux qui mangent les Khulim en pureté. Donc c'est une Touma qui est moins grande, qui est moins forte, que, c'est un doute qui est moins fort que le premier doute des Shneshvilim, des deux chemins. Puisque dans les deux chemins, lorsqu'une femme est passée dans un des deux chemins, même si elle a touché un aliment profane qui a été fait, qui a été gardé avec tous les principes de pureté et d'impureté, malgré tout, il va être impur. Donc la Gemara nous dit, Kulan Théorim de la Knesset, donc dans le cas du Zav, tout est pur pour le cas d'un. Donc aussi bien lourd que pas lourd, tel que l'explique Rashi. Vetvim la Teruma, et il rendra impur aussi la Teruma. Donc c'est ce que Ici, il y a un point, c'est-à-dire c'est la Braïta, la Mishnah que la Gemara a rapportée. Donc, nous avons vu une première halakha, que s'il y a un doute, Nolad la Safek Tum'a, Hachilo Gilgela, donc une femme est en train de pétrir du pain, en train de faire une pâte, elle va devoir donc faire le prélèvement de Chala. Lorsqu'elle a eu un doute, quel doute, là nous explique la Gemara, c'est un doute tel que Nish'an, c'est-à-dire c'est un doute qui, un degré, dire un doute de Touma qui n'est pas très très fort, puisqu'il ne rendra impur qu'à partir de Terouma, mais pas moins que ça, c'est-à-dire pas un aliment roulin, profane, même s'il a été gardé avec toutes les dinines, tous les halakhot de Terouma ou de Kodesh. Mais lorsque donc la femme a déjà fait la pâte, et à ce moment-là, donc la pâte a l'obligation d'avoir ce prélèvement de chala, cette femme ne pourra pas rendre impure la chala, puisqu'elle a malgré tout l'obligation de la garder en toute pureté, puisque c'est une pâte sur laquelle je dois faire le prélèvement de chala. Donc pour l'instant, ici nous n'avons pas de question avec ce que nous avons rapporté auparavant, c'est simplement une Mishnah que la Gemara à expliquer. La Gemara continue et nous dit Virchulina tvulim lechala kechala damu. Radi, ça voudrait dire que lorsque j'ai une pâte déjà prête et je dois faire le prélèvement de chala, tu vas me dire c'est kechala damu. C'est comme si toute la pâte entière est déjà la chala, c'est comme si la chala avait déjà été prélevée, toute la pâte a le dîne de la chala et je n'ai pas le droit de la rendre impure. Ve'atania, et pourtant, nous avons une braïta, c'est marqué. Isha shi'it vulatium, une femme qui a été donc impure, qui a été au mikvé, elle s'est immergée dans un mikvé, elle doit attendre la tombée de la nuit pour être entièrement pure, c'est le dîne de Tvulium que nous verrons encore plusieurs fois par la suite. Son degré d'impureté est un sheni, c'est-à-dire un second. En général, nous savons que dans Touma et Tahara, dans les dînimes de Taharot, le chéni, nous avons vu parfois qu'il y avait le avatouma, c'est-à-dire la source de touma. Lorsqu'un chéret, par exemple, touche un homme, cet homme est considéré comme richon. Lorsque le richon va toucher un aliment, l'aliment va être chéni, second. Donc le tvoulium lui-même est déjà second. Et nous savons que le second va rendre un shlishi, un troisième, si c'est de la terouma, s'il touche un aliment de terouma. Donc un tvoulium peut être tout homme qui a touché un chéret, donc normalement il doit se tremper au mikvé et attendre la tombée de la nuit pour être entièrement pur. Après l'immersion dans le mikvé et avant la tombée de la nuit, c'est ce temps intermédiaire qui est appelé tvoulium, cet homme va avoir le statut de chéni, de second. S'il touche un aliment de terouma, l'aliment de terouma est impur, il ne pourra pas être mangé. Mais s'il touche un aliment chouline, l'aliment chouline n'est pas impur puisqu'il n'y a pas de troisième degré dans Khoulim, c'est seulement dans Terouma. Donc là, la Gemara nous dit, nous avons une Braïta. Isha shi'it vulatium, une femme qui s'est trempée au mikvé, qui attend le soir pour être complètement pure. La Shaita Issa, elle peut donc pétrir une pâte. Vekotsa imena chalata, et elle peut prendre la chala. Et ensuite, umanichata bekafisha obeanchuta. Donc comme nous avons dit que cette femme a le statut de chéni, tant que la pâte n'est pas prête, tant que la chala n'a pas été prélevée, la chala va avoir le statut de terouma lorsqu'elle va être prélevée. Donc si la femme qui est tvoulium va toucher la chala prélevée, elle va rendre impure la chala. Tant que la chala n'a pas été prise, c'est vrai que j'ai une pâte, mais la chala n'a pas été prise, c'est chouline, c'est profane. Si c'est profane, la tvoulium, cette tvoulatium, cette femme ne rend pas impure la pâte. Donc la Gemara nous dit, que va-t-elle faire? Elle va d'abord prélever la chala, puisque tant qu'elle a prélevé, qu'elle n'a rien dit, elle n'a pas dit à réseau chala, elle a pris un morceau de pâte, pour l'instant, ce n'est pas chala, c'est simplement un morceau de pâte, donc elle ne rend pas impur le morceau de pâte. Elle va poser un manichata bekafisha ou bankuta, c'est-à-dire dans un keli qui n'a pas de creux, comme une planche de bois. Donc, ce keli-là ne rendra pas impur la chala, même si ensuite elle va déplacer la chala par l'intermédiaire de ce kli, elle ne rendra pas impure puisque c'est un keli qui ne reçoit pas l'impureté. Ou ma kefet, donc elle va mettre la chala, dire le morceau de chala qu'elle a prise à côté de sa pâte, puisque lorsqu'on fait le prélèvement de chala, il faut mettre la chala à côté de la pâte. Vekor al Hashem, donc elle va dire à réseau chala, ça c'est la chala que j'ai prise. et elle ne l'aura pas rendu impur. Pourquoi? Puisque au moment où elle l'a touché, c'était encore profane. Elle est chémie, elle ne peut pas rendre de shlichi de troisième dans le profane, elle ne peut que dans teruma. Donc l'agma explique neshu shlichi, puisque la pâte qui a été touchée est shlichi, veshlichi tor bechulin. Tant que c'est du profane, c'est permis, c'est pur. Et donc voici la question de l'agmara. Puisque tu viens de nous dire qu'une pâte qui est prête, sur laquelle je dois faire les prélèvements de chala, a déjà le statut de la chala, donc la femme qui a la tublat yom, qui a pris cette chala, l'a déjà rendue impure. Puisque c'est considéré comme si c'était de la terouma. Donc, via matrulin atvulin chala ke chala damu, atamitinu, elle a rendu impure. Et là, Abaye va répondre que non. Amar Abaye, kol shevadai, donc là aussi on va voir des degrés de pureté et d'impureté, takanot de chachamim, jusqu'à la Mishnah encore quelques lignes compliquées, ensuite ce sera plus facile. Donc la Gemara va nous donner ici des notions, des xérotes, les chachamim ont décidé ainsi, là ils ont été plus marmir, là ils ont été moins marmir, moins stricts. Il n'y a pas vraiment de raison dans Touma et Tahara, mais on peut encore aussi comprendre la raison des chachamim. Donc Abaye répond, kol shevadai metama chulin. Lorsqu'une femme, lorsqu'elle est, ou un homme, lorsqu'il est dans un statut de vadai, c'est-à-dire c'est sûr qu'il est impur, et que cette impureté va rendre impur même chulin, c'est-à-dire même un aliment profane. À ce moment-là, gazru al sfeko mishum chulin natvulin nechala. Dans ce cas-là, lorsque j'ai un doute, donc on va malgré tout être gozer, lorsque j'ai une pâte qui est prête, que je n'ai pas encore prélevé la chala, je vais dire que c'est comme si le tout était une chala. Pourquoi? Puisque s'il y avait une certitude que cet homme ou cette femme est impur, il aurait rendu impur même un aliment profane. Donc là où j'ai un doute, c'est vrai que l'aliment profane n'est pas impur, mais au moins la pâte toute prête va être aussi impure. Donc la Gemara nous dit, ça c'est pour répondre au cas de Nishan, du Massa Azav que nous avons vu, c'est-à-dire la première Mishnah. Étant donné que si un homme est Zav, c'est sûr qu'il a cette impureté de Zav et qu'il touche un aliment profane, il va le rendre impur. Donc lorsque j'ai un doute, est-ce qu'il a été, cet homme a été Nishan, c'est-à-dire il s'est appuyé, un Zav s'est appuyé sur lui, là j'ai un doute, je ne sais pas s'il est pur ou pas. Donc dans ce cas-là, je vais être mahmir, je vais dire lorsqu'il va toucher une pâte sur laquelle je dois déjà faire le prélèvement de halal, la pâte est impure. Puisque si je suis sûr que ce Zav s'est appuyé sur lui, il rendra impur même Khouli. Donc la Gemara a déjà répondu la première Mishnah avec la première explication de Nishan du Zav. Donc la Gemara continue. Vehaï Tvoulyom, mais le cas de Tvoulyom, là c'est la dernière Braïta. Cette femme qui s'est immergée dans un mikvé qui attend la tombée de la nuit. Même si je suis sûr que cette femme est Tvoulatiyom, elle ne va pas rendre impur des aliments, elle ne rendra pas impur des aliments Khulin, puisque le Tvoulium, nous avons dit, a le degré de deuxième degré, il ne rend pas un troisième lorsque c'est profane. Donc à ce moment-là, l'ogazru alav mishum Khulim atvulim lechala. Les Khatami m'ont dit que même si j'ai une pâte qui est prête, sur laquelle je dois faire un prélèvement de Khala, eh bien l'ogazru, il n'y a pas de xéra, elle ne va pas rendre impure cette pâte. Donc la Gemara a simplement répondu la contradiction. Dans un cas, les Chachamim ont été marmir, ont été plus stricts. Dans un cas, les Chachamim ne l'ont pas été. La Gemara, et voici pourquoi la Gemara a rapporté toute cette discussion, puisque la Gemara va poser vers Me'et Le'et Shibanida. Dans le cas de Me'et Le'et, c'est-à-dire les 24 heures qui précèdent le moment où la femme a trouvé un écoulement, a trouvé du sang. Nous avons dit que les 24 heures qui précèdent, tout ce qu'elle a touché est impur. Bevadai metame chulin. Lorsque je suis sûr qu'une femme est nida et qu'elle touche un aliment de chulin profane, il est impur. Et malgré tout, je vois que l'ogazroaz feka mishum chulin atvulim nechala. Je vois que lorsqu'il y a un doute, c'est-à-dire dans le metlet, dans les 24 heures, c'est pas sûr qu'elle avait déjà du sang. Malgré tout, je vais dire que si elle touche un aliment qui chulin atvulim nechala, une pâte qui est déjà prête, elle va le rendre impur. Où est-ce que nous avons vu ça? D'Amarma, puisque nous venons de voir à la fin du daf précédent, du hamoud précédent, que c'est marqué Kibla minirajnu baravitzvak bechulim shnaaswal tarat kodesh, velo bechulim shnaaswal tarat teruma. C'est-à-dire qu'une femme qui va toucher, qui a touché, dans les 24 heures qui précèdent le moment où elle a vu du sang, elle a touché des aliments chulin, donc profanes, qui ont été faits avec toutes les préparations, tous les degrés de Teruma, la pureté de Teruma, nous avons vu qu'il ne, elle ne les rendra pas impurs. Donc la Gemara compare ici une pâte toute prête à la frachatrala, au cas de Khoulin, d'aliments profanes qui ont été préparés avec toute la, qui ont été gardés avec toute la préparation de Teruma. Et donc là-bas, je vois qu'il n'y a pas d'impureté. Alors, la réponse de Abaye tombe automatiquement. Abaye nous a dit, lorsque c'est Vadaï, Metame Khoulin, c'est aussi Metame, cette, on va dire, c'est Khoulin, cette pâte qui est prête sur laquelle je dois faire le prélèvement de Khala. Et la Gemara va répondre que non, il y a une différence. Hatam, l'optiche beoutrouma. Dans le cas de Khoulin, c'est des aliments profanes. Seulement, je les ai gardés avec toute la Khoumot, avec tous les degrés de pureté de Teruma. Mais il n'y a pas de Teruma à l'intérieur. Donc c'est pour cela que ce n'est pas impur. Pardon ? Dans 24 heures avant, c'est pour cela que la femme ne les rendra pas impurs. Mais Acha, Ptir Rebeutuma, Itruma. Ici, dans le cas de la Khala, lorsqu'elle est toute prête, j'ai l'obligation de faire la Frachat Khala. Donc la Khala se trouve à l'intérieur. Ça, c'est déjà plus Khamour. Et si une femme, donc même dans le cas de Nishan, comme nous l'avons vu, ou peut-être qu'un zav s'est appuyé sur elle, donc elle rendra impure cette pâte, comme nous l'avons vu dans la première braïta. Ou bien, Vibaitema, Anachmet, Let Birabana, l'Agma a dit, ce n'est pas, tu ne peux pas faire de comparaison avec le cas de Metlet des 24 heures avant le moment où elle a trouvé ce sang, puisque ça c'est une Khumra des Rabana. Donc les Kharomim m'ont dit que si j'ai des aliments profanes, c'est vrai qu'ils ont été gardés avec les dinim de Teruma, malgré tout, elle ne les rendra pas impurs. Donc là, nous allons laisser un petit peu tous les dinim de Teruma, de Touma et Tara, que nous avons déjà depuis quelques dapim. Et nous allons voir une nouvelle Mishnah, un peu plus facile, Ezrat Hashem, Rabbi Eliezer Omer. Donc nous avons vu de la première Mishnah que lorsqu'une femme a un écoulement de sang, on peut se poser la question, peut-être que ce sang était déjà donc sorti du rérem de l'utérus, de la cavité vaginale, et la femme est déjà impure. Donc peut-être, c'est vrai qu'elle l'a trouvé aujourd'hui, mais peut-être qu'elle était déjà impure auparavant. Nous avons vu que dans certains cas, il y a Dayan Shahatan, c'est-à-dire on ne va la rendre impure qu'à partir du moment. Par exemple, une femme qui a un moment fixe, Yesh la Veset, Kavoua, elle a un moment fixe tous les premiers du mois. Donc lorsqu'elle voit le premier du mois, je ne dis pas que depuis 24 heures, ce sang était déjà à l'intérieur. Mais toute autre femme, nous allons remonter les 24 heures qui précèdent ce moment où elle a vu le sang, et nous allons dire que tout ce qu'elle a touché est impur. La Mishnah continue, Rav Eliezer Omer. Arba Nashim Dayan Shatan. Dit Rav Eliezer, il y a 4 femmes que lorsqu'elles ont vu du sang, on ne remonte pas les 24 heures qui précèdent, on va se suffire du moment. À partir de maintenant, elle est impure. Quel est le cas Betula d'une femme? Betula, en général on traduit une vierge, mais là la Gemara avait expliqué que Betula c'est une jeune fille qui n'a jamais vu de sang. Donc étant donné qu'elle n'a pas l'habitude de voir du sang, même lorsqu'il y a une première vision de sang, une réia de dame, malgré tout, ce n'est qu'à partir de maintenant qu'elle est impure et non pas 24 heures avant. Meuberet, une femme enceinte, Melika, une femme qui allait, puisque normalement elles sont mises sous la codame mais elles n'ont pas de sang, donc lorsqu'elle a vu du sang, c'est maintenant qu'elle l'a vu, ce n'était pas avant. Ezekena, c'est une femme vieille, d'un certain âge, qui, nous allons voir, la Gemara va définir, quel est l'âge de cette Zekena. À partir d'un moment donc, où elle n'a plus de Veset, elle n'a plus de règles, elle est Mesouleket Damim aussi, lorsqu'elle a vu malgré tout une fois du sang, on va dire ce n'est qu'à partir de maintenant, et je ne remonte pas les 24 heures auparavant. Amar Rabbi Yehoshua, Ani lo shamati la Betula. Rabbi Yehoshua dit à Rabbi Eliezer, moi je n'ai entendu que la Betula, que la jeune fille qui n'a jamais vu de sang, mais les trois autres je n'ai pas entendu. Nous passons à Moudbet, la Mishnah dit Aval Alacha ki Rabbi Eliezer, l'Alacha c'est comme Rabbi Eliezer. Ezoi Betula dit la Mishnah, qu'est-ce que c'est une Betula? Kol shelorat adam yamea, c'est une jeune fille qui n'a jamais vu de sang. Afalpi shenesua, même si elle est mariée, donc elle n'a plus le titre de Betula dans un certain contexte, malgré tout, par rapport à la Mishnah, elle est appelée Betula puisqu'elle n'a jamais vu de sang. Meuberet, une femme enceinte, Mishiyoda Ubra, lorsque on sait qu'elle est enceinte, nous verrons ça à partir de 3 mois, où on peut remarquer qu'une femme est enceinte. Menika, une femme qui allait à Chikmolet Bena, jusqu'à ce qu'elle termine qu'elle va sevrer son fils. Natna Bena le Menika, lorsqu'elle a donné son fils Menika à une nourrice qui va l'arrêter, elle l'a allaité. Gamalto omet, ou bien si elle-même, la mère l'a sevré rapidement, omet, ou bien que l'enfant est mort, Rabbi Meir omer metama met lettre, Rabbi Meir dit elle n'a plus le titre de Ménika, c'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, elle a le titre de Ménika tant qu'elle allait. Lorsqu'elle n'allait plus, elle n'est plus Ménika. Les Chachamim vont dire non. Daya Shahata, elle restera Daya Shahata malgré tout pendant 2 ans, comme la Gemara expliquera. Il y a ici une marloquette de fond entre Rabbi Meir et Chachamim. D'après Rabbi Meir, pourquoi une femme qui allait n'a plus de sang? C'est comme la Gemara le dit, Damne Kavena Sechalaf. C'est le sang qui se transforme en lait. Et donc c'est pour cela que dès qu'elle arrête d'allaiter, elle va retrouver ses règles. D'après les Chachamim, le din de Ménika est tous les 24 mois qui suivent l'accouchement, même si la femme n'a pas du tout allaité. Donc nous verrons la raison des Chachamim. Et les Chachamim considèrent que pendant toute cette période, elle est mise sous les Kedamim, bien qu'aujourd'hui, nous savons que une femme qui n'allait pas, normalement, retrouve ses règles normalement après l'accouchement. Donc au temps de la Gemara, d'après les Chachamim, Daya Shahata pendant 2 ans. Ezoï Zekena, qu'est-ce que c'est une Zekena? Une femme vieille, Kol Shavu Alia, Shalosh Onot Samouch Leziknata. Donc lorsque sont passés 3 Onot, que la Gemara expliquera, c'est-à-dire en 3 mois, elle devait voir, elle n'a pas vu, Samouch Leziknata. Donc lorsqu'elle a déjà atteint un certain âge, que la Gemara expliquera, elle est considérée comme Zekena. Lorsqu'elle a vu du sang, ce n'est qu'à partir de maintenant qu'elle est impure et non pas 24 heures avant. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer va dire, c'est pas seulement la Zekena qui n'a pas vu pendant 3 mois de sang qui va être Dayashata, mais Kol Isha Shablashosh Onot Dayashata. Toute femme qui a passé 3 Onot et qui n'a pas vu de sang est considérée Dayashata. Donc, dès qu'elle a ensuite un mouvement de sang, ce n'est qu'à partir de maintenant qu'elle est impure et pas dans les 24 heures. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Yosef va dire, Mouberet ou Menika, Shavualem, Shalosh Onot, Dayan Shatan. Rabbi Yosef n'a pas marloqué avec ce que nous venons de voir. Rabbi Yosef pense que même la femme enceinte, la femme qui allait, elles ne sont, mais sous la côte d'Amim, et donc Dayan Shatan, impures qu'à partir du moment, que lorsque 3 mois, 3 Onot sont passés et qu'elles n'ont pas vu de sang. Koubema, Amrou, Dayan Shatan, dit la Mishnah. Pardon, et dans quel cas on va dire Dayan Shatan? C'est seulement Beriya Rishona. La première fois qu'elle a vu du sang. Aval Bechnia. Mais lorsqu'elle a vu une première fois, on a dit, bon, Daya Shahata, c'est à partir de maintenant qu'elle n'est impure, pas dans les 24 heures auparavant. À partir, ensuite, elle a vu une deuxième fois, là, on va remonter Metametlet, puisqu'à partir de la deuxième fois, elle va retrouver son statut initial. Veimra Tarishona Meones. Si la première Rita était, la première Rita était par un cas de force majeure, que l'Egma expliquera, Afashnia Daya Shahata, même la deuxième fois, c'est Daya Shahata, puisque c'est en réalité la première fois. Tania Amalo, Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehoshua, Talo Shamata. Donc Rabbi Eliezer a dit qu'il y a 4 femmes. Rabbi Yehoshua a dit qu'il n'y a qu'une seule femme. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yehoshua, Talo Shamata, tu n'as pas entendu, Ani Shamati, moi j'ai entendu. Talo Shamata Ilacha, tu n'as entendu qu'une seule. Vani Shamati Arbe, j'ai entendu beaucoup, 4 femmes. En Omrim, le Mishlora et Tachodesh, Yavori Yaïd. Nous dit Rabbi Eliezer, dit Rabbi Yehoshua, on ne va pas dire à celui qui n'a pas vu la lune de venir témoigner qu'il a vu la lune et que c'est Rosh Chodesh. Et là, les Mishéraou, Kol, et là, les Mishéraou, on ne dira qu'à celui qui a vu la lune de venir témoigner. Donc, tu n'as pas entendu, moi j'ai entendu, donc je peux dire qu'il y a 4 femmes. L'Agma nous dit Kol Yamav shel Rabbi Eliezer Yosim Rabbi Yehoshua. Pendant du vivant de Rabbi Eliezer, tout le monde faisait comme Rabbi Yehoshua, c'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule femme, la Betula. Bien que la halakha, et comme la Mishnah le dit, comme Rabbi Eliezer. Mais la halakha tirato shel Rabbi Eliezer, après que Rabbi Eliezer soit décédé, Irzir Rabbi Yehoshua et Adavar Yoshno, Rabbi Yehoshua a repris comme Rabbi Eliezer. C'est-à-dire qu'il a accepté ce que dit Rabbi Eliezer, 4 femmes. Donc, du vivant de Rabbi Eliezer, Rabbi Yehoshua a été plus mahmir, les gens ont été plus stricts, et que même, donc là, Ménika, la Mouberet, femme enceinte, femme Kialet et la Zekena ne sont pas Dayan Shata. Quelle différence c'est du vivant de Rabbi Eliezer? Au contraire, du vivant de Rabbi Eliezer, on peut faire comme Rabbi Eliezer. L'Agma explique. Que Rabbi Eliezer Bechayam Maitamalo, lorsque Rabbi Eliezer était vivant, pourquoi on n'a pas fait comme Rabbi Eliezer? Mishum de Rabbi Eliezer Shmuteu. Parce que Rabbi Eliezer, d'après Rashi, a été mis en quarantaine, a été excommunié par les Chachamim dans Masret Baba Metzia, ou d'après Tosfot. C'est parce que Rabbi Eliezer venait de Beth Shammai, donc Shmuté c'est du lachon de Beth Shammai, car l'Acha est comme Hillel, Donc Vesava, Rabbi Yehoshua pensait hier, Dinan Kavate Bechada, si on va faire comme Rabbi Lezer dans cette halakha-là, Avdinan Kavate Bachnit, et les gens vont aussi, dans d'autres points où Rabbi Lezer est en marloquette avec les Chachamim, les gens vont suivre Rabbi Lezer. Mshum Kvodo de Rabbi Lezer, Lomatsinan Machinan Beou. Et à cause de l'honneur de Rabbi Lezer, on ne pourra pas s'opposer à ce que les gens font. Alors que l'halakha n'est pas comme Rabbi Lezer. Mais la chav tirato shel Rabbi Lezer, après le décès de Rabbi Lezer, si les gens vont suivre dans d'autres points Rabbi Lezer, on pourra leur dire l'halakha n'est pas comme Rabbi Lezer, ne suivez pas sur ça Rabbi Lezer. Donc à ce moment-là, des matinan machinandou, puisqu'on peut s'opposer à celui qui va suivre Rabbi Lezer, irsir et adavar liyoshno, il a repris et adavar liyoshno comme avant, c'est-à-dire qu'il y avait quatre femmes et non pas une seule femme, comme l'a dit Rabbi Yehoshua. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, la Gemara nous dit, Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabbi Lezer be'arba. L'alacha est comme Rabbi Lezer be'arba dans quatre cas. Quels sont ces quatre cas? Donc la Gemara va nous les rapporter. Chada de'Ameran. Le premier cas où l'alacha est comme Rabbi Lezer, c'est notre cas ici. Rabbi Lezer a dit qu'il y a quatre femmes d'Ayan Shatan, bien que Rabbi Yehoshua dit une seule, la Betula, la jeune fille. L'alacha est comme Rabbi Lezer. Vedach un autre cas. Amaksha kama tishpe v'teezava. Donc nous verrons par la suite qu'il y a donc une période de 7 jours de Nida et qu'après cette période de 7 jours, il y a une période de 11 jours de Ziva. Si une femme pendant cette période de 11 jours a vu 3 jours de suite, elle est Zava Gdola, elle doit attendre Shiva Nikim, 7 jours blanc, 7 jours de propreté sans aucun écoulement de sang. Lorsqu'une femme va accoucher, elle a aussi l'impureté de Yoledet, d'une femme qui a accouché. Quel va être le din? Lorsqu'une femme va accoucher pendant cette période des 11 jours, que 3 jours avant son accouchement, elle a eu du sang. Donc on va dire, non seulement elle est Yoledet, mais en même temps elle est Zava. Donc lorsqu'elle va attendre pour se purifier de l'impureté, c'est-à-dire de l'accouchement, qui est pour un garçon d'une semaine et une fille de 2 semaines, comme c'est marqué dans Parashat Tazria, elle devra malgré tout attendre Shiva Nekim, puisqu'elle est aussi Zava. Mais il y a une halakha que si cette Ziva vient de l'accouchement, c'est-à-dire que la femme, pendant ces 3 jours, avait les douleurs de l'accouchement, même si elle a eu du sang 3 jours de suite, je ne vais pas lui donner le titre de Zava Gdola. Je vais dire ce sang vient à cause de l'accouchement, et elle n'a que l'impureté de l'accouchement et pas l'impureté de Ziva. Dans le cas où cette femme, après ces 3 jours, qu'elle a eu 3 jours de suite, où elle a eu les douleurs de l'accouchement, et qu'elle a eu 3 jours de suite des écoulements de sang, on va dire que puisque l'accouchement va suivre, elle n'est pas Zava, elle n'est que Yoledet. Malgré tout, s'il y a eu un moment entre ces 3 jours et l'accouchement où elle n'a plus de douleurs, les douleurs se sont arrêtées, donc je vais dire que même les 3 jours qu'elle a vus, ce sont effectivement de la Ziva et pas à cause de l'accouchement, puisqu'il y a eu un moment où elle n'avait plus de douleurs. Combien de temps doit être ce moment-là? Ça, c'est ce que Rabbi Lezer nous dit. À Maksha, une femme donc, qui a les difficultés, les douleurs de l'accouchement et qui a vu du sang, Kama Tishpe, combien de temps doit-elle rester sans douleur? Vete Zava, et qu'elle va avoir le statut d'une Zava et qu'elle devra attendre Shiva Nikim après, donc les temps de après les 3 jours, mais puisqu'elle va accoucher par la suite, donc après le moment où elle va donc se purifier de son accouchement. Et Rabbi Lezer dit, mais athlète, il faut 24 heures, dit Rabbi Lezer, va la chakit varavla aussi, la chakit comme Rabbi Lezer, lorsqu'il y a eu donc 3 jours dans les douleurs, 3 jours de suite elle a vu du sang, dans les 11 jours de Zava, si ensuite il y a eu 24 heures sans douleur, elle est considérée comme Zava Gdola.
Et comment ça va compter 7 jours
après l'accouchement, elle comptera 7 jours.
Après les 7 jours d'accouchement,
ça dépend. Si ces 7 jours sont Nikim, elle aura aussi 7 jours Nikim. S'ils ne sont pas Nikim, il y a du sang, elle devra attendre après 7 jours. Vedar, un autre cas. Azav et Azava shebatku atzman. Donc un homme qui a l'impureté de Zav ou une femme qui a l'impureté de Ziva, tous les deux doivent attendre 7 jours de pureté. Et il doit y avoir des vérifications tous les jours. Shebatku atzman yom rishon ou matzoutao. Ils ont fait une vérification le premier jour et la vérification était bonne. Yom shvi ou matzoutao. Ils ont fait la vérification le 7e jour et ils ont vu que le 7e jour aussi, c'est bon. Mais Sha'ar Yamim, les 5 jours intermédiaires, ils n'ont pas fait de Mdika. Ça, c'est aussi une halakha que nous reverrons par la suite pour le cas des Shiva Nikilim actuels. Lorsqu'une femme, normalement, doit faire des Mdikot tous les jours, lorsqu'elle n'a pas fait tous les jours, quel va être son statut? Donc là, on ne va pas rentrer dans la halakha, on laissera Bezrat Hashem pour la fin de la Maseret Daf Samechet. Nous allons voir juste la Mahloket des Tanaïm. Donc Rav Lezer dit, on va considérer que les 7 jours, c'est comme si 7 jours étaient Nekiim, sans aucun écoulement, ni de sang pour la femme, ni de Zov pour l'homme. Rabbi Yeshua, mère Rabbi Yeshua, dit non, en la emela yom rishon yom shvi, bilvan. Ils n'ont que le premier jour et le 7e jour, puisque les 5 jours intermédiaires, il n'y a pas eu de vérification, peut-être qu'il y a eu du sang, peut-être qu'il y a eu du Zov. Bien que s'il y a eu du sang le 3e jour, donc on devrait recommencer à compter à partir du 3e, du 4e jour. Le premier jour devrait tomber. Donc Rabbi Yeshua dit non, le premier jour reste quand même, mais les 5 jours je ne peux pas les compter puisque peut-être il y a eu du sang. Donc la Gemara, nous verrons aussi l'explication de Rabbi Yeshua puisque ça paraît contradictoire. Rabbi Akiva Omer, en la emelayom ashu bilvad, Rabbi Akiva dit, puisque peut-être pendant les 5 jours intermédiaires il y a eu du sang ou du zov, donc elle n'a que le dernier jour. Vetania, nous avons une braïta. Rabbi Shimon et Rabbi Yosef Omrim, Shimon et Rabbi Yosef vont dire tous les deux, Nirim dit Rabbi Lezer, dit Rabbi Yeshua. Lorsqu'on prend Rabbi Yeshua et Rabbi Lezer, le plus logique c'est Rabbi Lezer, puisque Rabbi Yeshua va prendre le premier et le dernier jour, et les 5 jours intermédiaires, il considère qu'il y a eu du sang. Alors pourquoi Rabbi Yeshua prend le premier? Donc si j'ai Rabbi Lezer, Rabbi Yeshua, l'agma a dit Rabbi Lezer est plus logique. Si tu as le premier jour, donc tu as tout. Mais malgré tout, divrei Rabbi Akiva, divrei Kulam. Rabbi Akiva est plus logique que tous, c'est-à-dire que je n'ai que le dernier jour, puisque les 5 jours intermédiaires, peut-être qu'il y avait du sang, et donc vont annuler le tout. Avant la lacha qui Rabbi Lezer, la lacha qui Rabbi Lezer, donc nous avons un troisième cas où la lacha est comme Rabbi Lezer. Vedar, le dernier cas, ditnan, et là nous revenons un petit peu à la Touma. Nous avons une Mishnah. Chore kelim shinitmu b'mashkim. Le dos d'un keli, c'est-à-dire l'extérieur d'un ustensile qui a été impur b'mashkim par des aliments. Donc un aliment, par des boissons. Une boisson qui a touché un chéret, c'est-à-dire un reptile, la boisson est devenue impure. La boisson aura la possibilité de rendre impur aussi un keli, un ustensile. Normalement, un ustensile ne peut être impur que par un avatuma, comme l'homme, que par la source, que par le chéret. Si le chéret touche un aliment et cet aliment va toucher un keli, le keli, l'ustensile, est pur. Mais lorsque le chéret va toucher des liquides, là, les Chachamim ont dit que les liquides peuvent, Sintouma des Rabbanan, peuvent rendre impur le Keli. Donc nous avons une Mishnah. Chore Kelim qui ont été impurs par Mashkin, par des liquides. Rabbi Lezer Omer et Tamim et Tam Mashkin. Rabbi Lezer dit, le Keli par la suite va rendre impur à son tour d'autres liquides. Il y a à l'intérieur du Keli d'autres liquides. Ven Poslim et Ochlim. Mais le Keli lui-même ne pourra pas rendre impur si j'ai mis des aliments à l'intérieur du keli. Metamimetamashkin va filou des choulim. Ils vont rendre, le keli pourra rendre impur des liquides, même si ces liquides sont profanes. Ils n'ont aucune kdusha. Metamimetamashkin va filou des terouma. Ils ne rendront pas impurs des aliments, même si ces aliments sont de la terouma. Ça c'est Rabbi Lezer. Rabbi Yeshua Omer, metamimetamashkin, poslimetamashkin. Rabbi Yeshua dit, il y a une impureté pour les mashkim, et les mashkim, c'est-à-dire si j'ai mis des liquides à l'intérieur de ce keli, ces liquides vont être impurs et pourront rendre à leur tour communiquer encore cette touma. Au poslim et taochlim, si j'ai mis des aliments purs à l'intérieur de terouma, les aliments seront impurs. Donc la marloquette entre Rabbi Yeshua et Rabbi Lezer, c'est est-ce que ce keli qui est devenu impur par des liquides pourra rendre impur un aliment? Rabbi Yeshua dit que oui, Rabbi Lezer dit que non. Amar Rabbi Yeshua dit qu'al vachomer, il y a une logique de la plus forte raison. Oumat Tvoulium. Si déjà le Tvoulium que nous avons vu, cet homme qui s'est trempé, qui attend le soir pour retrouver sa pureté. Donc le Tvoulium, comme nous l'avons dit, est un chéni, est un second. Chehem est un bemashkim choulin. Il ne pourra pas rendre impur une boisson choulin, puisque dans les choulin, dans le profane, le deuxième degré ne fait pas de troisième degré. Malgré tout, possède l'ochle terouma. il va rendre pasoul un aliment de terouma, quelqu'un qui va manger de la terouma, puisque dans la terouma il y a un troisième degré. Donc achore kelim, le dos d'un keli, shemetamemashkechulim, qui lui va rendre impur une boisson même chulim, donc il est plus fort que le tvulium. Et nodin shposel ochle terouma, n'est-ce pas plus forte raison qu'il pourra rendre impur aussi un aliment de terouma. Vera blazer va répondre non. Achore kelim, de rabanan, c'est une loi de rabanan. Tvulium, c'est une loi d'oraita. Vera banan d'oraita loi d'un kavachomer. On ne peut pas faire un kalvachomer d'une halakha de la Torah sur une halakha de Rabbanan. Pourquoi? Demi d'oraita, la Gemara explique pourquoi l'un c'est d'oraita, l'autre de Rabbanan. Demi d'oraita mina Torah, un ochel metamekeli. Un aliment ne peut pas rendre impur un keli. Donc ici nous parlons d'un keli qui a été communiqué d'impureté par un liquide. Ce liquide avait touché un shéret. Donc le shéret est tombé dans un liquide. Ce liquide est impur lorsque cette liquide a touché un keli, le dos d'un keli, ce keli est impur. Si ce keli à son tour va toucher, je vais mettre à l'intérieur des liquides, les liquides vont être impurs. Et ça c'est une impureté des rabbanan. Pourquoi? Puisque minatora, le keli ne peut devenir impur, ou bien une boisson ne peut rendre impur un keli, que si, donc ça c'est le ochel, l'aliment ou la boisson ne peut pas rendre impur un keli, il faut que ça soit la source de touma, le avatouma qui rend impur le keli. Vera banan ou dégazos. C'est seulement les chachamim qui ont dit que lorsqu'un liquide va toucher un keli, le keli est impur. Pourquoi? Xera mishum mashkin desav. C'est une xera par rapport au liquide du zav et zava qui sont impurs. Donc les chachamim ont dit tout liquide va avoir une plus grande impureté qu'un aliment. Et mashkin dalumikabel tuma gazbura banan. Donc les liquides où il y a plus de tuma, c'est là que les chachamim ont fait la xera. Ochlim des aliments. Dehen dalumikabel tuma lo gazbura banan. Là, les chachamim n'ont pas fait de xéra d'impureté, puisque les aliments n'ont pas, ne vont pas devenir impurs aussi vite que des liquides. Donc si c'est ainsi, nous dira Blazer, lorsqu'un keli a été touché par un liquide impur, ce keli pourra rendre impur un autre liquide, mais ne pourra pas rendre impur un aliment. Et là, l'alakha est aussi comme Rabbi Lézer. Donc que l'aliment sera, l'aliment qui va rentrer, qui va toucher ce keli, restera pur. La Gemara pose juste une dernière question. Donc pourquoi parler du dos des kelim? On ne parlerait pas de l'intérieur. Lorsque la boisson est tombée à l'intérieur et a rendu tout le keli impur, la Gemara répond, Mishum dekile. C'est parce que le keli, le dos du keli, l'extérieur du keli, a une touma plus faible. Dites-na, nous avons une Mishnah. Keli shenitma machorav, un keli qui a reçu, qui est en contact avec une impureté, mais de l'extérieur, bemashkin, par une boisson impure, achorav tamé, c'est l'extérieur qui est impur, mais toho, l'intérieur, ozno, c'est-à-dire, le ozno, il explique le rage dans ma secrète kelim, c'est une sorte d'oreille, dire une anse avec laquelle on va mettre un manche à l'intérieur de ce, mettre un manche dans ce, pour tenir ce keli, ou bien ogno, ce sont les parois du keli, yadav, ou même dire une main, c'est-à-dire une anse du keli, théorim reste pur. C'est seulement l'extérieur qui est impur. Mais nitma toho, si l'intérieur est devenu impur, là, à ce moment-là, kulotame, tout le keli entier est impur. Donc dans ce cas-là, la Gemara explique, lorsque les boissons ont touché l'extérieur du keli, le keli d'après Rabbi Lézer rendra impur des boissons, des liquides, mais pas un aliment. Mais si le keli est devenu impur de l'intérieur, donc des boissons, des liquides impurs ont touché le keli de l'intérieur, le keli rendra impur même des aliments. La Gemara termine. Nous avons vu que Shmuel a dit la halakha est comme Rabbi Yehoshua. La Gemara dit Maïka Mashmalan, quel est le chidouche de Shmuel? Puisque Bekulut, Nanil Cheta, dans toutes les Mishnah, tous les cas qui sont rapportés, c'est marqué Vil Cheta Kirab Lezer, comme notre Mishnah, c'est marqué Aval Alacha Kirab Lezer. La Gemara dit, Vichitim Achore Kelim Kamashman Lotnan, peut-être c'est la dernière Mishnah, ou dans la dernière Mishnah, c'est pas marqué que l'Alacha est comme Rab Lezer, alors Rabbi Shmuel aurait dû dire, Vilim Alacha Kirab Lezer, Achore Kelim, l'Alacha est comme Rab Lezer, dans Achore Kelim, pourquoi avoir rapporté tous ces cas-là? Et la Hakamashmanan Shindim Alacha Mipia Talmud, Rab Shmuel vient nous dire, je viens préciser que la halakha est comme Rabbi Lézer, bien que dans la Mishnah c'est marqué que la halakha est comme Rabbi Lézer, puisque Bien que la Mishnah ait dit la halakha est comme Rabbi Eliezer, c'est pas sûr que la halakha soit comme Rabbi Eliezer. Comme explique Rashi, ce que la Gemara ici appelle le Talmud, c'est la Mishnah. Bien qu'il y ait eu un autre Talmud qui vient expliquer la Mishnah, mais au temps des Tanaïm, le Talmud, l'explication des Tanaïm, c'était la Mishnah elle-même. Donc même si la Mishnah dit la halakha est comme Rabbi Eliezer, eh bien ce n'est pas prouvé que la halakha soit véritablement comme Rabbi Eliezer. C'est ce que Shmuel a voulu préciser dans ces quatre cas. Bien que la Mishnah le dit, je vais te préciser la halakha est comme Rabbi Eliezer, puisque si je n'étais pas venu te le dire, tu n'aurais pas pu le déduire du fait que la Mishnah l'est marquée halakha que Rabbi Eliezer. On va s'arrêter ici. À Vetulé.